y a certainement moyen, non pas de faire un Facebook sur ce modèle-là, mais d'avoir le béaba de ce qui va nous permettre de communiquer et de nous exprimer publiquement sous une forme qui ne soit pas du domaine commercial.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue, c'est le second numéro du podcast des éclaireurs du numérique pour cette année 2021, j'espère que vous allez bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner régulièrement, vous pourrez donc nous écouter toutes les semaines en principe pour votre dose hebdomadaire de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. On va mettre tout ça là-dedans pour parler cette semaine avec Fabrice Eppelboin et Damien Douani. Salut à vous deux.
Salut.
Salut.
On va parler de WhatsApp. Que se passe-t-il ? Est-ce que cette migration massive de millions de personnes hors de WhatsApp pour partir vers Telegram, vers Signal et vers d'autres est une révolte ou une révolution ? C'est la vraie question qu'on se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il se passe vraiment quelque chose et que Zuckerberg, qui l'a bien cherché, est en train de trouver réellement la colère. Qui sème le vent récolte la tempête. C'était ça la phrase précise.
À mon sens, on a une espèce de démantèlement de Facebook citoyen. C'est comme la justice, qu'elle soit américaine ou européenne, est incapable de faire quoi que ce soit. On a vraiment un début de démantèlement citoyen où WhatsApp se vide de sa substance. Moi, je suis dans tout un tas de groupes WhatsApp. Et notamment, je suis dans des groupes WhatsApp qui sont peuplés de gens qui n'ont absolument aucune culture informatique, qui n'ont aucune sensibilité ni à la cybersécurité, ni à la privacy, ni quoi que ce soit. Et même ceux-là sont en train de se barrer. C'est fascinant. Donc, il y a un vrai espoir.
En fait, c'est intéressant ce qui se passe parce que c'est un trompe-l'œil, hein, WhatsApp. WhatsApp, c'est très utile comme outil, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est... Le petit panonceau au lancement de l'application qui dit ben en gros, vous êtes obligé maintenant de vous conformer aux nouvelles conditions générales d'utilisation, les CGU, sinon on vous supprime votre compte. C'est bien, en plus, vu la période actuelle où on parlait justement de Trump, tout ça, dans un podcast précédent, l'histoire de supprimer le compte, cette manière brutale de présenter les choses. Croisé avec le fait que WhatsApp est une société appartenant à Facebook, société que le veuille ou non Mark Zuckerberg, qui a une réputation déplorable, fait que d'un seul coup, les gens se disent « Oh là, oh là, attends, Facebook, on m'a eu une fois, je ne peux plus en sortir, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet réseau, qui fait que finalement, comme tout le monde est là, ben, j'y reste. Mais par contre, c'est plus facile de migrer ailleurs. » Depuis WhatsApp, donc on va pas m'avoir deux fois. En plus, on me menace de supprimer mon compte, donc c'est en gros de m'exproprier si je ne me confère pas aux nouvelles règles de Facebook. Mais fuck off, va te faire foutre, Marc, je me casse. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc quelque part, je trouve que c'est assez intéressant ce prisme-là, cette lecture-là, et les grands gagnants, ce qui est génial, parce qu'en plus vous avez des gens comme Elon Musk qui en rajoute en mettant use Signal sur Twitter, c'est fabuleux. Et ce qui est génial, c'est que vous avez Telegram, Signal, ou même un petit français qui s'appelle Olvid, qui est vraiment pas mal, qui sont en train de tirer Scred aussi, qui fait pas beaucoup de pubs d'ailleurs. Scred, j'entends pas beaucoup de parler, mais Olvid est plutôt pas mal aussi. Bref.
Et beaucoup plus sécurisé que Signal hein, d'ailleurs, Olvid. Hein.
Oui, Olvid et Scred, c'est une autre génération de Messenger. C'est beaucoup plus sécurisé. Là, pour le coup, ça assure un véritable anonymat, contrairement aux autres qui n'assurent pas un véritable anonymat. Il faut payer cet anonymat hein, par une surenchère d'une vraie difficulté d'utilisation. C'est beaucoup moins simple à utiliser que Telegram ou Signal. Mais par contre...
Parce qu'on n'a pas accès au carnet d'adresses.
On n'a pas accès au carnet d'adresses. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de téléphone pour l'utiliser. Et tout un tas d'autres choses qui font que ça assure vraiment un anonymat. Donc c'est typiquement, pour connaître un peu Scred, c'est quelque chose qui est très très utilisé dans des dictatures, parce qu'ils ont quand même une vague idée de qui, où est-ce que c'est utilisé, pas qui l'utilise, mais où est-ce que c'est utilisé. Scred fonctionne sur un système pair-à-pair, donc il n'y a pas de serveur central, donc de toute façon, il n'y a pas moyen d'intercepter quoi que ce soit, vu qu'il n'y a aucun serveur central. Par contre, oui, il n'y a pas de carnet d'adresse, donc il faut reconstituer un à un tout son carnet d'adresse, la plupart du temps par des contacts physiques. Donc, c'est pas simple, et on ne passe pas à Scred ou Olvid en claquant des doigts. Alors que Telegram et Signal, vraiment, il suffit de dire à ses potes, ben, rejoins-moi sur Signal, on télécharge une application et c'est reparti. C'est très simple à faire.
Il y a eu 25 millions de comptes nouveaux sur Telegram en 3 jours après le démarrage de l'histoire WhatsApp, ce qui est absolument colossal. On imagine que Signal, ça doit être la même chose. C'est un vrai phénomène de fond qui est en train de se passer.
Mais il y a un phénomène de fond parce que déjà, il faut savoir une chose, c'est que les fondateurs de WhatsApp, tous comme ceux d'Instagram, ont claqué la porte de Facebook. En désaccord avec justement la volonté de Mark Zuckerberg de fusionner les plateformes et de publiciser tout ça avec les données personnelles. Donc déjà, y a plein de petits cailloux qui sont venus se mettre sur le chemin au fil du temps. Donc d'un côté, les fondateurs qui disent « Non, ras-le-bol, on se casse. Vraiment, ça suffit. On s'est fait racheter. Très bien. On a eu un gros chèque. Super. On nous avait donné des garanties, mais Zuckerberg revient dessus. Donc ras-le-bol. » Donc ça, c'est le premier point. Deux, on sait très bien que Zuckerberg n'a aucune parole. Et que de toutes les manières, le mec, il a un classeur à excuses qui lui permet de sortir à chaque fois une excuse pour dire « On est désolé, vraiment, on ne savait pas. » Donc, qu'on le veuille ou non, même le moins technophile des utilisateurs de Facebook sait bien, on voit bien qu'à un moment, on se fout de sa gueule. Ensuite, il y a le fait que, alors certes, grâce à la RGPD, eh bien, au RGPD, pardon, eh bien, on n'est pas logé à la même enseigne en Europe que par rapport au reste du monde. Nous, on est en Europe, on est rattaché en fait à WhatsApp Irlande, qui en fait permet donc d'être compliant, comme on dit, donc avec les règles du RGPD, tandis que dans le reste du monde, c'est une autre société. Et donc, ce qui fait que on voit bien ce qui se passe ailleurs. C'est en fait, alors que actuellement, on a WhatsApp qui est en train de faire ce qu'on appelle du privacy washing, donc autrement dit, qui est en train d'essayer de limiter la casse au maximum en expliquant non, il n'y a rien qui change, promis juré, vraiment, il n'y a rien qui change pour vous, c'était uniquement pour les comptes professionnels. Le problème, c'est que les Européens voient bien qu'ailleurs, ça ne se passe pas de la même manière et que Facebook a envie d'appliquer son modèle à WhatsApp, qui viendra à un moment aussi à Instagram.
Et puis, rappelons que pour avoir l'accord de la Commission européenne pour le rachat de WhatsApp, Facebook s'est engagé justement à ce qu'il n'y ait pas de transfert de données. Donc,
tout à fait.
Dans le genre pas de parole, c'est au-delà de l'entendement. Il y a mensonge devant une quantité de...
Bon, le problème aujourd'hui quand même, c'est que dans la famille Facebook, aujourd'hui, il y a donc Facebook, il y a WhatsApp et il y a Instagram. Facebook et Instagram, on est un peu pieds, poings liés quand même. Donc là, le seul espace de liberté qu'on ait, c'est finalement de remettre en cause notre présence sur WhatsApp parce que c'est beaucoup plus facile de s'en aller. Mais d'une certaine façon, on reste quand même tous un peu prisonniers de la galaxie Zuckerberg.
Oui, ça.
Oui, mais paradoxalement, le WhatsApp peut être un vrai talon d'Achille. Pourquoi est-ce que Facebook a racheté Instagram et WhatsApp ? Instagram a été racheté en réaction au fait que Snapchat avait refusé de se vendre à Facebook et parce que Facebook sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de l'image. Donc quelque part, Instagram, c'est une sorte de Facebook 2.0. En revanche, WhatsApp, ils l'ont acheté parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de monter autour des discussions privatives de Messenger nouvelle génération. D'où le fait qu'à l'époque, ils aient scindé dans le produit Facebook Messenger du reste de Facebook. Et donc, WhatsApp, à l'origine, c'est un produit israélien, si je ne dis pas de bêtises, c'était un produit qui était très utilisé pour pouvoir communiquer pour 0€ à l'étranger. Donc en gros, vous vouliez faire des appels longue distance à l'international, eh bien vous utilisiez WhatsApp, ça utilisait de la data et donc ça ne vous coûtait rien. Donc très clairement à l'origine, la base elle est là. Et effectivement, ils ont petit à petit essayé de faire migrer la base d'utilisateurs vers des nouveaux usages. Autant, je pense que les utilisateurs de Messenger sont verrouillés parce qu'ils sont liés à la plateforme Facebook, qu'on le veuille ou non quelque part, et que Facebook fait tout pour créer des liens avec la plateforme Messenger. Typiquement, si vous faites du business sur la plateforme Facebook avec la marketplace, eh bien, vous allez recevoir les messages des gens sur la Messenger, etc. Autant WhatsApp, il y a encore une fenêtre de tir où on peut s'en extraire. Sachant que la roadmap de WhatsApp, elle est très claire. Hein. Je suis désolé tous ces anglicismes à la Jean-Claude Van Damme, hein, vraiment désolé. Je le dis pour les auditeurs qui risquent de nous le dire, mais voilà. Très clairement, Aujourd'hui, par exemple, si vous faites de la vente sur la marketplace de Facebook, Facebook vous dit « rajoutez votre numéro de téléphone WhatsApp pour que l'on puisse vous appeler et vous demander des renseignements, par exemple. » Ou bien, il y a un WhatsApp business qui est sorti et qui est dédié aux entreprises pour faire en sorte que les entreprises développent, par exemple, typiquement en temps de pandémie, le fait de dire ben, « si vous êtes fermé, on peut vous contacter de manière omniprésente via le canal WhatsApp. » Donc ça, c'est ce qui est en train de développer d'un point de vue business Facebook. Mais on va dire que la fenêtre de tir n'est pas complètement refermée. Et donc, en voulant aller vite sur cet alignement des CGU, eh bien, je pense qu'ils viennent se tirer une balle dans le pied parce que les gens ont bien compris qu'il y avait une fenêtre pour essayer de s'échapper et c'était maintenant ou jamais. Et c'est ce qui est en train de se passer.
Alors, juste une précision, je ne suis pas sûr que WhatsApp soit d'origine israélienne, pour le coup.
Non, je ne crois pas.
Non, j'ai peut-être dit une bêtise, pardon, sur ouais. WhatsApp, je confonds avec un autre outil qui y ressemblait, dont le nom m'échappe.
Non, non, tu confonds avec ICQ, non, on est des vieux dinosaures, et je pense que tu confonds avec ICQ.
Je confonds avec Viber.
Pour la petite histoire, WhatsApp a été créé par Ian Koum et Brian Acton en 2009. Ils avaient été chez Yahoo tous les deux, ils avaient quitté Yahoo. Ils ont tous les deux postulé chez Facebook, qui les a gentiment jetés. Et en vengeance, d'une certaine façon, ils ont créé WhatsApp face à Facebook en disant « on va créer quelque chose qui va les ennuyer un tout petit peu ». Enfin voilà. Et c'est né en 2009.
Et puis rajoutons deux éléments. WhatsApp, sur le continent africain par exemple, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dominant que... en Occident, essentiellement parce qu'ils ont des terminaux qui sont plus limités, plus bridés, et c'est quelque chose de très épidermique. Souvenez-vous que le Liban, ça a commencé à péter au moment où le gouvernement a commencé à imposer une taxe sur WhatsApp. Et là, il y a commencé à avoir une véritable révolte, si ce n'est révolution, au sein du Liban, qui malheureusement pour eux, n'a cessé de dégénérer depuis. Donc il y a potentiellement quelque chose de très épidermique autour de WhatsApp. Et puis pour finir, WhatsApp, c'était la plateforme support pour la Libra, la monnaie Facebook, qui elle-même s'est fait torpiller, Dieu merci, par les gouvernements qui ont commencé à comprendre qu'effectivement, ils étaient face à des entités qui allaient les bouffer s'ils ne se réveillaient pas, et que c'est l'un des fers de lance de Facebook pour son développement dans la sphère financière. Et les GAFAM, tous les GAFAM, sont à fond sur l'avenir et dans la finance.
Il y a une chose qui est quand même vraiment marquante là, sur cette histoire de WhatsApp, au-delà de l'histoire de la galaxie Facebook, c'est que tout d'un coup, on a des millions de gens à travers le monde, des centaines de millions de gens potentiellement très vite, qui sont en train de dire aux États, on veut que nos données restent confidentielles, ça suffit cette espèce de pêche aux données. Il y a quand même un message très fort qui est en train de se passer et on sent que finalement le message est arrivé à maturité auprès de la population mondiale. Il y a aujourd'hui une majorité de gens qui est bien consciente que ça ne peut pas durer comme ça sur le pillage et le contrôle et la surveillance des données en permanence. Est-ce que vous voyez comme ça ou pas ?
J'attends vraiment de voir la population qui se révolte contre la surveillance d'État, hein, parce que dans le genre pillage des données et surveillance généralisée, dans leur ensemble, ouais. Quasiment pas d'exception près, s'y sont joyeusement mis ces 10 dernières années en enquillant sur les États-Unis et la Chine. Hein, là-dessus, les États ont de leçons à donner à personne, y compris à Facebook.
Il y a un autre élément, c'est que, certes, ça va dans l'air du temps, hein. Il y a une maturité, effectivement, qui est liée à tout ce qui est souveraineté numérique, les données personnelles, etc. Le problème, c'est que tout ça reste un peu nébuleux. Et il y a une question de fond à laquelle on ne répond pas. On gueule après WhatsApp, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Mais c'est des services gratuits. Il y a bien un moment, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc, le modèle économique n'est peut-être pas le bon, mais la question de fond, elle reste celle-là. Si on ne veut pas de ce type d'outils-là, soit on passe à la caisse, soit les outils trouvent un nouveau modèle économique. Mais ce nouveau modèle économique, il va bien falloir qu'il s'appuie sur quelque chose. Donc, voilà, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et tout ce que vous voulez.
Aussi que s'il y a de la pub sur un équivalent de WhatsApp, il faudra bien qu'à un moment précis, elle soit ciblée. Pour qu'elle soit ciblée, il faudra prendre un minimum de données. Ouais, voilà.
Signal, c'est une fondation, au même titre que Wikipédia, et c'est gratuit, et ça peut tout à fait être viable gratuitement.
Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des solutions alternatives, je ne dis pas ça. Hein. L'exemple de Signal, de Wikipédia, de la fondation Mozilla, bien entendu, et c'est très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres services qui peuvent exister, tout ne peut pas être sous forme de fondation, et il y a bien un moment où il faut que l'argent arrive de quelque part. Donc il y a un modèle économique quelque part. Et donc, il faut bien le reconnaître. Hein. Là, depuis tout à l'heure, on tape sur Facebook, WhatsApp et tout, mais sérieusement les gars, c'est des produits gratuits qui fonctionnent super bien. Donc, techniquement parlant, c'est quand même velu, hein, Facebook. Et Facebook et WhatsApp fonctionnent vraiment très très bien. Donc voilà, il y a un moment où il faudra se poser les vraies questions. Donc oui, ok, c'est peut-être le moment de la rébellion, du mouvement d'humeur des utilisateurs, mais on va bien voir, soit il va rentrer dans le rang, ce que à mon avis attend Mark Zuckerberg. Je pense que ça va laisser des traces. Très clairement, Zuckerberg va trouver certainement un tour de passe-passe pour faire revenir les gens aussi, mais ce qui est intéressant et la vertu de cette histoire, c'est que ça a montré qu'un autre monde était possible, ou tout au moins d'autres versions, d'autres choses étaient possibles, et on pouvait s'échapper de l'emprise de l'univers Facebook.
Zuckerberg va utiliser ce qu'il a comme force majeure, c'est: vous êtes accro à Facebook, si vous ne prenez pas mon WhatsApp, je vous limite votre Facebook. Il va se passer quelque chose qui ne sera pas aussi radical que ça, mais dans les faits, ce sera un petit peu cette espèce de chantage qu'il risque de mettre en place quand il sera dans la panade. Parce que de toute façon, il y a un moment précis, il y a des actionnaires derrière qui demandent des comptes.
Oui, alors il risque d'y avoir ça, effectivement. Après, ça dépend sur quoi il appuie. Voilà, je donne l'exemple de ce qu'ils avaient fait pour la marketplace en disant mettez votre numéro de téléphone WhatsApp, comme ça on peut vous communiquer, vous appeler, etc. Oui, il y a un vrai questionnement là-dessus. Je pense que la pierre angulaire quelque part pour WhatsApp, c'est pas le grand public, c'est les professionnels. Donc est-ce que les professionnels iront ailleurs, sachant que c'était une offre qu'ils étaient en train de développer? Donc est-ce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied avec cette offre qu'ils étaient en train de développer? Peut-être. Ou pas, parce qu'il y a quand même un enjeu important. Deuxième élément, il y a le vieillissement des utilisateurs de Facebook, qui est un vrai enjeu. Mais d'un autre côté, comme ils ont Instagram, qui est une base plus jeune, ils arrivent à compenser, donc il y a aussi ça. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que non, Facebook n'est pas au bord de la faillite. Mais voilà, le mouvement d'humeur est quand même très révélateur d'un état d'esprit actuel assez intéressant à regarder.
Et je pense malgré tout que... il y a moyen d'avoir les bases de quelque chose qui serait pas un service public, mais quelque chose qui ne soit pas commercial. Encore une fois, Signal et Wikipédia l'ont démontré, et qu'il y a certainement moyen, non pas de faire un Facebook sur ce modèle-là, mais d'avoir le béaba de ce qui va nous permettre de communiquer et de nous exprimer publiquement sous une forme qui ne soit pas du domaine commercial. C'est à mon avis l'un des grands enjeux de la prochaine décennie sur Internet. On a déjà Wikipédia, qui est quelque chose de fantastique, avec tous les défauts qu'on lui connaît, mais malgré tout, ça a été une vraie révolution, et ça fait partie malheureusement des rares choses extrêmement positives qu'ont apporté Internet. Il faut continuer sur ce modèle-là. Signal donne une voix. Le modèle de la fondation offre une alternative à l'abjection qu'a créé Facebook et qui est un monstre pour les données personnelles.
Ouais, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait quand même qu'on ait la même chose sur un navigateur, sur un client mail, sur un réseau téléphonique.
C'est Firefox, ça a merdé, mais ça peut tout à fait redémarrer.
Ça merde totalement Firefox, parce que c'est une usine à gaz et que c'est extrêmement lourd d'utilisation, donc ça n'a pas pris.
Oui, mais ça peut redémarrer. Ça reste un navigateur, c'est quelque chose que le monde du libre peut tout à fait reprendre en main et refaire.
Et le vrai problème est aujourd'hui de la surveillance sur les smartphones. C'est vraiment ça le cœur du problème aussi, de toute façon. Alors là, il n'y a pas de solution publique possible.
Il y a quelques solutions, de solutions Android endurcies, les iPhone Foundation, ouais, des trucs comme ça.
Pour
l'instant, c'est confidentiel.
Pour monsieur tout le monde.
C'est très confidentiel. Mais là aussi, on n'est pas à l'abri d'un mouvement d'humeur, d'un mouvement de mode, de tout d'un coup, ça devient cool d'avoir un Android endurci avec un OS qui ne soit pas celui de Google. Il y a peut-être une opportunité à choper à un moment.
Moi, je verrais bien naître une espèce de package à, je ne sais pas, 8 ou 10 euros par mois, parce qu'il faudra bien payer un moment précis pour financer tout ça, qui soit une espèce de package sécurité des données et qui permette de... Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que, et on en avait parlé lors d'un podcast spécifique sur le sujet, sur Apple, c'est Apple qui a trouvé le bon angle. Apple dit... Moi, je ne fais pas business de vos données. Vous m'achetez mes appareils chers, et c'est pour ça qu'ils sont chers. C'est parce que quelque part, je vous garantis, outre le fait qu'ils sont beaux, je vous garantis le fait que derrière, je n'utiliserai pas vos données. Et en plus de ça, effectivement, si vous utilisez mes services que vous allez payer, hein, parce que c'est logique, hein, avec un abonnement par mois, puisqu'en plus maintenant, Apple propose un abonnement global à tous ces services qui s'appelle Apple One, eh bien... je vous garantis que finalement, on est dans une logique classique et vous payez pour un service, je vous le rends et je ne vous pille pas vos données. Donc, on revient à des modèles plus classiques, on va dire. Hein, voilà, une autre réponse alternative sur laquelle aujourd'hui se positionne un acteur comme Apple. On ne peut pas avoir autre chose que iOS sur iPhone. Et donc, Apple dit, on va dire, la privacy, la confidentialité des données est intégrée. Et comme ils avaient mis dans une énorme affiche au précédent CES à Las Vegas l'année dernière, pour narguer Google, vous aviez sur le strip de Las Vegas une énorme affiche avec un iPhone et avec marqué ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Vous voyez le clin d'œil, bien sûr, à Las Vegas et ce qui se passait avec Google et Android, mais ça, c'est une autre histoire.
Bon, on va terminer par la question qu'on posait au tout début de ce podcast. Est-ce une révolte ou une révolution, selon vous, cette histoire de WhatsApp et de ces millions de personnes qui s'en vont ?
J'attends de voir le correctif en bourse de Facebook pour trancher. Si le marché suit, ça pourrait être une révolution. Si le marché ne réagit pas plus que ça dans les semaines qui viennent, ça sera guère qu'une révolte.
Moi, je pense à une révolte. En revanche, ça peut être une révolution à long terme si Zuckerberg fait encore 2-3 conneries sur sa plateforme.
Ça va arriver, ça.
Le gars est un très, très bon architecte. Il a une position dans l'entreprise qui fait qu'il a la révolte pour éviter des utilisateurs et la révolution des actionnaires.
Et puis, ne désespérons pas de la Commission européenne, à qui on a menti, qui pourrait très légitimement se retourner contre Facebook et lui demander des comptes, à défaut de lui demander des impôts.
Bon, à titre personnel, je pense que pour l'instant, c'est une révolte, mais qu'il y a un potentiel de déclenchement de quelque chose qui serait le premier signe avant-coureur d'une révolution qui serait bienvenue, puisqu'on prône ça quand même un tout petit peu en matière de protection des données et de respect des individus dans ce podcast. Tiens, on va se retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Bref, n'oubliez pas que tout ça reste interactif. Salut Damien, salut Fabrice.
Ciao.
À la semaine prochaine.